Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement sur Europe 1 et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Femmes à l'honneur et Bertrand Chameroy pour un écran de veille spécial gifle. Notre invité, c'est le comédien Martin Lamotte pour son film L'Instant Présent. Nous serons également avec son réalisateur Florian Essic. On va pas seulement parler de ce film, mais également d'une pièce de théâtre. Et puis dans les indispensables, Loki, la nouvelle série Disney+. C'est Clément Le Saffre qui va nous la faire découvrir. Et une sélection des sorties ciné du jour. Nous sommes mercredi. C'est Mathieu Charrier qui sera dans ce studio. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe, bonjour Eva.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et ce matin, vous nous parlez de la gifle reçue par Emmanuel Macron.
Oui Philippe, la vidéo tourne en boucle depuis bientôt 24 heures. On a vu la scène sous tous les angles possibles. Ne reste plus que la version drone et photo prise par Thomas Pesquet depuis l'ISS et on aura vraiment fait le tour. C'était hier, il était un peu plus de 14 heures. Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme. Dès 14h40, l'info et les images ont été relayées sur les chaînes info, notamment sur BFM. Avec l'excellent Philippe Corbet, qui ferait également un très bon commentateur pour l'Euro. Il a analysé les images de la gifle comme s'il commentait une action de foot au ralenti. Écoutez.
Si je comprends bien la vidéo, puisqu'on l'a regardé, regardez, cet homme, lui, il tend la main à un homme et de l'autre main, cet homme le gifle ou tente de gifler. Je ne sais pas exactement en voyant l'image si la paume de sa main est arrivée sur la joue du président. En tout cas... bon, on n'est pas très loin en tout cas.
Oui, vous avez noté la précision dans l'analyse, il vérifie, hein, c'est la VAR, si la paume de la main a touché la joue, vous êtes à deux doigts de sortir la palette graphique et la Spider-Cam. Moi je milite pour que Philippe Corbet commente le prochain match des Bleus. Toujours sur BFM, Olivier Truchot a posé la question du jour concernant cette gifle, du point de vue sécurité du président.
Dans la scène qu'on a vue Guillaume Fard, le président donc s'avance vers ce groupe de personnes massées derrière les barrières. Ces personnes ont été fouillées.
Alors oui Olivier, sans doute, mais ils sont malins. Ils avaient sûrement habilement dissimulé leurs mains dans les poches. Mais si on avait confisqué les mains de tout le monde, l'incident aurait peut-être pu être évité. Un dispositif à étudier pour les prochaines fois. Alors, tout ou presque a été dit à propos de cette scène. Toutes les questions ont été posées. La sécurité du président est-elle bien assurée? Comment éviter que cela se reproduise? Est-ce que ça marque un tournant? Mais le meilleur axe, le meilleur angle sur cet incident, c'est Yves Calvi qui nous l'a offert dans l'Info du Vrai sur Canal.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'Info du Vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une heure et demie d'actualité en direct sur Canal+. La seconde partie de l'émission est ce soir intitulée « Macron agressé, gifle ou claque ?»
Gifle ou claque. Et oui, on l'avait pas vu venir ce dossier, un angle original qui a le mérite de se démarquer de la concurrence et à l'occasion. Si vous connaissez la différence entre une gifle et une claque, faites-moi signe. Autre question posée dans l'Info du Vrai.
Est-ce grave ou peut-on en rire?
Eh bien, je serais tenté de répondre non. Car que ce soit sur un président ou n'importe qui d'autre, une claque ou une gifle, je sais pas ce qu'ils ont tranché, hein, ça n'est jamais drôle. Mais ce n'est que mon avis. Yves Calvi, qui lui était plutôt partisan du rire.
L'agresseur, lui, nous a fait une bonne imitation de Jean Reno dans Les Visiteurs.
Voilà, le président de la République se fait gifler par un type qui dit « Montjoie Saint-Denis », c'est une bonne imitation de Jean Reno. Sur CNews, Face à l'info, s'interroger sur le profil de l'auteur de la gifle. Et Christine Kelly et Éric Zemmour nous ont fait découvrir un nouveau terme dont j'ignorais l'existence.
Si on en croit son compte Instagram, là, il penche plutôt à droite, sans frontières. Peut-être.
Sur CNews, dans Face à l'info, on ne dit plus extrême droite, mais droite sans frontières. C'est plus doux, c'est plus cocooning, on dirait un jeu estival. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans Droite sans frontières. Je vous rappelle le principe, vous devez réaliser les plus beaux dérapages tout en évitant de vous faire attraper par le CSA. Attention, top au sage. Bonne journée.
Merci Bertrand Chameroy. Eva Rock, oui. Comme tous les jours, maintenant vous penchez sur les programmes de ce soir. Quel est le thème de votre zapping?
Des femmes, alors des femmes fortes, ingénieuses, drôles, combattantes et créatrices. On va commencer par une question très simple pour vous deux, Bertrand et Philippe. Combien de noms de femmes peintres ou sculptrices pouvez-vous me citer?
Oh là là, Marie-Laurencin,
ouais, par exemple.
Camille Claudel.
Ouais. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup quand même.
Hein. Ouais.
Eh bien, Arte a choisi de mettre à l'honneur ces artistes méconnus du 19e siècle à nos jours. Et pour se rendre compte de l'invisibilité de ces femmes, petite expérience.
Dans une encyclopédie de référence, elle a recouvert de peinture toutes les entrées consacrées à des artistes masculins, ne laissant visibles que les femmes. Sur 5000 articles, il n'en est resté que 169. Cet ouvrage, aux pages presque entièrement blanches, rend visible une histoire de l'art racontée comme une succession de grandes figures masculines, et faisant systématiquement l'impasse sur les femmes.
Et c'est comme ça qu'on estime que 5% des œuvres exposées dans les musées ont été réalisées par des femmes. Et pourtant, les réserves regorgent de toiles exceptionnelles. Encore faut-il les exposer. Arte rend justice à ces femmes en leur offrant une vitrine médiatique avant, faut-il l'espérer, une vitrine dans nos musées. Ce documentaire contient des pépites et... autre qualité, il va vous inciter à vous rendre dans les expositions justement pour retourner voir ces femmes.
Oui, il y avait du luxe Valentine aussi.
D'accord. Enfin, vous m'avez interrompu pour me dire ça, Bertrand.
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Je crois que c'est la première intervention de Bertrand depuis 3 mois.
Voilà, c'est ça. Merci. On vous remercie beaucoup. Alors, des créatrices donc, qui n'ont pas eu peur d'affronter les hommes au cours de leur carrière, comme moi je vous affronte, eh bien c'est la même situation ou presque dans la société dirigée par Karine Brontier, décor de la série Hilarante Working Girl, rediffusée sur Canal Plus Série. Alors pour tout vous dire, série portée par des femmes comme Claude Perron, Laurence Arnay ou encore Blanche Gardin, absolument exceptionnelle, en salarié neurasthénique. On la retrouve d'ailleurs, elle est à la machine à café devant deux collègues qui se dragouillent depuis quelques temps.
Finalement, ça nous apprend vachement sur nous-mêmes, hein, ce test sur les animaux. Là. Mmh. Moi par exemple, je ne me voyais pas du tout en ours. C'est vrai que je suis un peu grognon le matin, tu vois.
Ah, mais... c'est trop mignon. Moi j'ai eu, attends, une fois souris et deux fois chatte. Bizarre, hein.
Moi, j'ai eu 3 fois bulot, 10 fois huître et 12 fois moule. Un vrai plateau de fruits de mer.
Pardon. Parce qu'en plus, il faut voir la scène avec la tête de Blanche Gardin qui est en train de manger une compote. Franchement, je crois que cette série est une des séries qui m'a provoqué le plus de fou rire, vraiment, de toute ma vie. Alors, grâce au dialogue, évidemment, à l'interprétation de ces comédiennes et palme à Blanche Gardin, et par le comique de situation qui rythme chaque épisode, c'est le meilleur des antidépresseurs en ce moment. Et puis, en parlant de femmes, il y en a une autre qui s'est battue pour les autres, qui s'est battue contre les violences faites aux femmes, parce qu'elle-même en a été victime. Elle s'appelait Aretha Franklin et sa vie est racontée dans une nouvelle série à découvrir sur Disney+, Genius Aretha.
Est-ce que la pop musique veut dire que vous tournez le dos à l'église ?
Au contraire, ma voix est un don divin. Je ne vois pas pourquoi je voudrais faire ça.
Vous pourriez aussi devenir leur choriste.
Nous sommes une famille, nous serons toujours là les unes pour les autres.
Alors, je ne suis pas fan des biopics, mais je dois reconnaître que cette série est très bien réalisée. Sa principale qualité se nomme Cynthia Erivo, actrice, chanteuse britannique. Elle incarne à merveille la reine de la soul. Alors, les 8 épisodes n'étaient peut-être pas nécessaires, ça s'étire un peu sur la longueur. Mais la série reste passionnante et musicalement, ça relève du bonheur. Des femmes artistes dans Aux Arts Citoyennes, c'est sur Arte à 22h35. Des femmes hilarantes sur Canal Plus Série avec la rediffusion de Working Girls dès 17h. Et Genius Aretha, c'est quand vous voulez et c'est sur Disney+.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Bertrand Chamorro. Bertrand, une dernière petite vanne pour la route.
Oui, quelle est la différence entre Tintin et Milou? Milou n'a pas de chien.
Dans un instant, notre invité, l'acteur Martin Lamotte. Merci Bertrand pour ce trait d'humour. Son film
affligée.
L'instant présent. Il sera avec son réalisateur Florian Essic. Mais d'abord, musique avec Louane.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Avancer droit, perdre son temps. Avoir peur de soi ou peur des gens. C'est si facile quand on s'endort. Perdre le fil sans les accords. Arrêtez les cœurs, cesse le sommeil. Craindre le compteur, les doutes s'éveillent. Face aux égaux, tout semble atteint. Effacer les mots, casser les crins. Aimer à mort, sans respirer. Même quand j'ai tort, je suis là. J'arrête pas. Aimer à mort, sans se toucher.
Aimé à mort, c'était Louane sur Europe 1. Dans un instant, nos invités, le comédien Martin Lamotte et le réalisateur Florian Essig, vont parler du film L'instant présent. C'est juste après cet instant.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Martin Lamotte.
Bonjour.
Vous n'êtes pas obligé de mettre le casque, vous êtes comédien de théâtre, de cinéma. On dit que parfois vous êtes le 7e ou le 8e bronzé, ça dépend comment on compte, si on compte Anémone ou Patrice Lecomte.
Oui.
On vous a vu dans Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, Les Bronzés 3, mais aussi dans Beaumarchais l'insolent et aussi dans la série humoristique de TF1, Nos chers voisins. Et là votre actu, c'est L'Instant présent, film qui sort aujourd'hui en salle, film réalisé par Florian Essig qui est dans ce studio. Bonjour Florian Essig.
Bonjour.
Réalisateur donc de L'Instant présent. Avant que je vous demande pourquoi vous avez choisi Martin Lamotte comme pivot du film, comme c'est vous qui avez écrit le film, vous saurez mieux que personne nous raconter le synopsis.
Eh bien écoutez, oui, sûrement, j'espère. J'espère.
Il va y arriver.
Ça m'arrive, une fois sur deux, j'y arrive. C'est donc l'histoire de Joshua que j'interprète, qui après un grave accident de cheval, a été plongé dans le coma pendant un peu moins de 9 ans, et qui revient aux écuries, des écuries qu'il a bien connues. Il est accueilli par Mario et Alice, et pendant tout, qu'il a bien connu aussi, mais qu'il ne reconnaît pas. Et ces deux personnes vont essayer, l'espace d'une journée, de raviver les souvenirs.
Mario, c'est Martin Lamotte. On va entendre la bande-annonce.
Pendant longtemps, t'es resté dans le coma. Quand tu t'es réveillé, tu te souvenais plus de rien. Comme si une vie nouvelle s'offrait à toi.
Tu sais pas qui je suis, n'est-ce pas?
Tu peux m'expliquer ce que je fais ici?
C'est une idée des médecins. Ils sont persuadés qu'un environnement familier entouré des personnes que tu as connues avant pourrait te permettre de retrouver la mémoire. L'équitation, c'était toute ta vie. T'as été un grand champion.
Joshua, descends tout de suite!
J'ai pas envie qu'il t'arrive à nouveau quelque chose.
J'ai l'impression d'être spectateur de ma propre vie.
Martin Lamotte, qui est votre personnage de Mario? Quel est son rôle dans l'histoire?
Eh ben, son rôle, en fait, c'est le père. Mm-hmm. Et donc, il est le père de ce fils qui a perdu la mémoire. Et c'est un rôle, c'est pas central, comme vous avez dit. Mais
j'ai dit pivot.
Comme pivot.
J'ai dit que ça tournait autour de lui.
C'est pivot comme Bernard.
Ouais.
Et c'est lui qui centralise, parce que c'est lui la mémoire la plus ancienne de tout, de la vie de Joshua, et puis de sa vie maritale avec cette jeune femme.
Ah bah racontez pas la fin du
film. Non, je raconte pas. Alors, et après, l'assassin, c'est le chinois.
Ouais, c'est ça.
Je me suis dit, est-ce qu'on peut le dire ou pas le dire? Et Martin Lamotte, il vient de vendre le morceau. Florian Essig, pourquoi vous avez choisi Martin Lamotte?
Ah, pour plusieurs raisons. En fait, quand j'ai écrit le scénario, j'ai tout de suite vu Martin, parce que pour moi, c'est le parfait exemple du bourru au cœur tendre. Ah. En fait,
voilà. Il m'avait jamais dit ça.
Je te le dis, c'est presque une déclaration aujourd'hui.
Ouais.
Je trouvais que le personnage, il pouvait vraiment donner un super relief au personnage, ce qui est le cas, en tout cas de mon point de vue. Et puis aussi parce que c'est le quatrième projet qu'on fait ensemble et que on s'entend bien et on se marre beaucoup.
C'est votre Jean-Pierre Léo. Vous faites tous
c'est ça. Exactement.
Vous faites tous vos films avec lui.
C'est ça.
Hein, comme Truffaut. C'est votre Truffaut alors, presque.
C'est mon Truffaut. Alors j'attends qu'il commence à faire plusieurs films, de plus en plus grands.
Ouais. C'est ça.
Donc vous ne pouviez pas dire non. Vous avez dit oui tout de suite, ou est-ce que vous avez quand même demandé à lire le scénario, ou est-ce que vous avez demandé des...
Non, j'ai dit oui, mais j'étais quand même très surpris de cette demande, et surtout quand j'ai lu le scénario. Je me suis dit, mais il est dingue.
Ah oui? Qu'est-ce qu'il a de dingue? Qu'avez-vous trouvé de dingue? Le choix de la musique comme sujet?
Non, mais de me choisir moi pour faire de ce film qui est magnifique, mais qui n'est pas forcément une comédie hilarante.
Ah non. Hein.
Et donc c'est ça, je me suis dit, on va le faire.
Florian Essig, pourquoi ce choix de sujet central qui est l'amnésie?
Alors moi, mon papa est touché par la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Je m'en occupe, j'ai vu l'évolution. Alors, j'avais pas envie de faire un sujet plombant sur la maladie d'Alzheimer, mais je me suis intéressé pendant toutes ces années aux familles qui entourent ces gens atteints de troubles cognitifs. Et dans ce film, j'avais envie quelque part, si ce n'est de leur rendre hommage, au moins de les évoquer, puisque tout le film est du point de vue de Mario et d'Alice. J'avais envie de m'intéresser à ce que j'appelle ceux qui restaient, parce que je trouve que l'oubli est souvent moins douloureux que le souvenir.
Il vous reconnaît, votre papa ?
Mon papa me reconnaît. Alors, on ne peut pas dire qu'il me recueille, il ne parle plus, etc. Quand il a des signes, il a quelques signes d'affection, mais après, de là à dire qu'il me reconnaît, je ne suis pas sûr.
Dans quelle mesure ce que vous racontez est réaliste ? Par exemple, la chute du personnage principal qui a attaqué son cerveau, ça existe, ce genre d'amnésie après une hémorragie cérébrale, où vous l'avez un peu inventé et vous ne vouliez pas vous colter le sujet d'Alzheimer en tant que tel ?
Alors, je voulais effectivement éviter le sujet d'Alzheimer, déjà parce que ça a été fait et très très bien fait. Et puis parce que je trouvais que c'était pas un sujet qui prêtait à la légèreté du moment. Je voulais déjà m'intéresser à un personnage plus jeune, inverser un petit peu les rôles.
Mais est-ce que ça arrive, ce cas ? Est-ce qu'on peut devenir amnésique ?
Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé effectivement pour le scénario avec des neurochirurgiens. Là, on s'attaque sur une journée, mais ça peut être des périodes plus longues, plus courtes. Mais effectivement, la mémoire active peut durer que quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et après, on oublie tout.
On n'oublie pas, on reste sur Culture Média, sur Europe 1. Il ne faut pas dire sur, on reste sur Europe 1 avec Culture Média. Martin Lamotte, Florian Lessic, nos invités. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Martin Lamotte, le comédien L'Instant Présent, film qui sort aujourd'hui en salle, signé Florian Essy, qui est avec nous dans ce studio. On parle de problèmes humains, on parle d'amnésie, vous avez fait le parallèle avec l'histoire personnelle, la vôtre et celle de votre papa. Il y a dans ce film ces problèmes humains, il y a également les problèmes des chevaux. Écoutez ce récit.
Quand Mario est venu lui donner ses granulés, il a trouvé couché, inerte, sur le sol.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On croyait qu'il était mort, mais il respirait encore. Le vétérinaire est venu et il a mis près d'un mois pour le remettre debout. Il souffrait diverses insuffisances, il refusait de s'alimenter. Quoi qu'on lui mette sous le museau, il trouvait toujours la force de détourner la tête. Il a fallu le mettre sous perfusion pour qu'il reprenne des forces.
Pourquoi il faisait ça ?
Au début, on a pensé que c'était le fait d'être seul, séparé des autres. Alors quand il a pu revenir ici, on l'a mis avec Igor, son inséparable de l'époque. Mais au bout de 2 jours, il était de nouveau couché. Et le vétérinaire est venu, il nous a dit qu'il souffrait d'une dépression.
Un cheval qui fait une dépression, c'est véridique ?
Ça arrive, absolument, bien plus qu'on ne le croit.
Moi, je sais même pas, donc ça, c'est forcément plus.
Ça arrive.
Je pensais même pas que c'était possible.
Si, c'est possible. Et là, par exemple, dans le film, le fameux Yorga, qui est mon cheval, je l'ai eu, j'avais 11 ans, il avait 1 an et demi. Et on a, alors j'espère qu'il ne se laissera pas mourir, mais par contre, on a cette relation. Tout ce qu'il fait dans le film, il le fait dans la vie réellement. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vais pas le voir pendant une longue période, il fait la gueule, il vient plus.
Voilà, mais c'est pas tout à fait une dépression, c'est faire
pas,
la gueule.
C'est hein. pas une dépression.
Moi aussi, j'ai un chat qui fait la gueule, mais c'est pas une dépression pour autant.
Martin, quand je viens pas le voir souvent, pareil.
Si vous avez un cheval qui s'enferme dans sa chambre et qui met la musique à fond, qui fume des trucs, s'il est en dépression.
Plus sérieusement, pourquoi vous avez situé cette histoire, somme toute humaine, dans le milieu du cheval et des chevaux ?
Alors, j'ai toujours eu envie de faire un film. Je suis passionné d'équitation depuis que je suis tout jeune. J'ai fait beaucoup de compétitions équestres. Et j'ai toujours eu envie de faire un film dans l'univers des chevaux, pas forcément centré sur les chevaux, mais dans l'univers des chevaux. Il fallait un sujet, le sujet dont on a parlé. J'ai trouvé qu'aborder la thérapie par le cheval, c'était quelque chose d'intéressant pour le sujet. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Et vous, Martin Lamotte, vous êtes également passionné par les chevaux ou pas du tout ?
Pas du tout. Je crains ces bêtes-là parce que je sais qu'ils ne sont pas très intelligents, les pauvres.
Ouais.
Non, c'est des bêtes craintives, ce sont des proies et non pas. Et nous sommes des chasseurs, et donc on a des rapports très difficiles.
Vous avez dit que vous aviez du mal à communiquer avec les chevaux.
Oui.
Ça se voit pas dans le film ?
Non.
Mais
après,
ça se manifestait
ça va,
comment ?
Parce que je sais qu'il faut un grand moment d'apprivoisement, c'est comme les oiseaux. Il faut les tourner avec un perroquet. Ça m'a mis 2 mois à ce qu'ils viennent dans ma veste et puis qu'ils s'ébouriffent.
Non, vous n'allez pas comparer un cheval et un perroquet, si ?
C'est pareil.
Si. Non, parce que vous êtes Martin Lamotte. Oui. On ne sait jamais si vous êtes sérieux sérieux, Martin Lamotte.
J'ai tourné avec un cheval qui était odieux parce qu'il trottait tout le temps. J'avais très très mal aux fesses. Mais je ne sais pas monter. Et après, il est devenu gentil. C'est-à-dire que quand je passais le matin, à mon passage, il hennissait. J'allais le voir, je caressais, je donnais un petit truc à manger. Et tout d'un coup, il me regardait et il renversait son seau avec la patte.
Je vais parler du style, Florian Essic. Non, je veux juste parler du style. Pour dire que le film a un rythme très particulier. Ici, c'est très vif quand vous parlez, Martin Lamotte. Mais quand on regarde le film, c'est beaucoup plus lent. Exemple, cette scène où les deux personnages principaux discutent autour d'une table.
C'est pas le meilleur café du monde, mais après un bon footing, ça fait du bien.
Je le trouve pas si mauvais.
Tu connais vraiment rien ici.
J'imagine que je devrais.
Pourtant, t'en as passé du temps dans ce lieu.
Excusez-moi, je voudrais surtout pas paraître grossier, mais comme je sais absolument pas qui vous êtes, vous pourriez peut-être me donner votre prénom.
Moi, c'est Alice.
Alice.
Ça te dit quelque chose?
Absolument rien.
On a raccourci les silences entre les répliques sans bouger pendant 8 minutes. Ça se fait plus du cinéma comme ça. C'est le cinéma que vous aimez, Florian Hessic ?
J'adore. Alors, c'est très drôle. C'est très drôle parce que moi, pourtant, je suis très, très comédie, très punchline. C'est d'ailleurs ce qui nous a réunis avec Martin au départ. Mais j'ai appris à aimer ce cinéma et je trouve que les silences, les regards sont quelque chose, des choses qui se perdent dans le cinéma actuel. Et je trouve que ça en dit... souvent beaucoup plus que des dialogues ou des actions en elles-mêmes. Et j'avais vraiment envie, il y a deux séquences comme ça qui sont assez longues, où c'est vraiment un face-à-face et où les personnages se parlent, mais en disent beaucoup plus avec les yeux qu'avec les mots.
Merci d'avoir été avec nous, Florian Hessic. Merci, Martin Lamotte. Vous restez, Martin Lamotte. On va parler de cinéma avec Mathieu Charrier. On va parler encore de plein d'autres choses.
Okay.
Et je voudrais parler de cette pièce « Papy fait de la résistance » que vous remontez. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Martin Lamotte, le comédien à l'affiche du film « L'instant présent », film qui sort aujourd'hui en salle, réalisé par Florian Hessic. On l'a vu, il y a un rythme très très particulier dans ce film. Ça peut commencer comme un téléfilm d'Antenne 2 à l'ancienne, avec du café et des rhumatismes. Ça se poursuit en film suédois, avec du silence. Et ça se termine, je ne veux pas tout spoiler, mais ça se termine en fable philosophique sur le temps qui passe, sur la durée. Et on comprend seulement à la fin, ne spoilez pas,
non,
Martin Lamotte, pourquoi ce titre, l'instant présent. C'est ce qui vous a séduit aussi. Vous saviez que ça allait être ce rythme-là, parce que vous êtes plutôt un...
Non, je ne savais rien du tout. Non, non, je lui fais confiance. Je lui ai fait confiance et je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien faire ce personnage-là. Ok, on
y va. Je veux dire quand même ce que Martin Lamotte a dit au réalisateur. On a passé l'extrait de cette scène où il y a un dialogue très, 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 très lent. Et pendant le dialogue, Martin Lamotte dit au réalisateur, heureusement que tu ne m'as pas donné cette scène-là. J'avais jamais entendu ça encore de ma vie.
Bah oui, oui, oui.
Il faut choisir ses scènes. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Vous ne choisissez pas vos scènes, Mathieu Charrier, mais vous choisissez vos films.
Oui.
On est mercredi.
On est mercredi.
Mercredi, c'est cinéma.
Effectivement.
Et alors, c'est votre sélection du jour. Films à voir ou des films à éviter. Et vous commencez, Mathieu, par un film triplement oscarisé, c'est Nomadland.
Exactement, signé de la chinoise Chloé Zhao, qui est devenue la deuxième réalisatrice seulement à recevoir l'Oscar de meilleure réalisatrice après Catherine Bigelow. Il faut dire que son Nomadland est virtuose. On y suit Frances McDormand, qui a tout perdu, hein, emploi, mari, maison, et qui part donc sur les routes du Nevada à bord de son van aménagé. Elle enchaîne les petits boulots, notamment des jobs journaliers chez Amazon, recrutée au gré des commandes, et surtout, elle part à la rencontre de communautés, des laissés pour compte de l'American Way of Life dans ces grandes étendues du Nevada. Tous vivent à bord de leur camionnette, aménagée plus ou moins bien d'ailleurs, et se retrouve pour partager quelques moments.
Comment tu l'as appelé ton van ?
Vanguard.
L'avant-garde, c'est puissant.
C'est tout lui.
J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route.
Je vous fais écouter un bout de la bande originale, de la bande annonce, parce que je trouve que ça montre bien aussi l'ambiance du film avec cette musique, ce tempo. C'est vraiment un grand film, une image, une photographie à couper le souffle. Vous êtes dans des grandes étendues autour de ces feux de camp, chacun confie son histoire, un bout de sa vie. Des parcours aussi qui racontent finalement ces laissés pour compte d'un système. Alors ça se passe aux États-Unis, mais ça pourrait se passer finalement dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a une poésie folle, un humanisme fort. Le personnage de Frances McDormand ne se plaint pas, jamais. Elle avance malgré les obstacles, elle reste finalement très libre. Bref, croyez-moi, il ne faut pas louper ce Nomadland qui sort donc aujourd'hui en salle.
Deux autres sorties en salle que vous nous conseillez, Mathieu.
Alors d'abord, il y a 200 mètres, c'est le titre du film, et la distance à laquelle Mustapha vit de sa famille. Problème, au milieu de ces 200 mètres, eh bien, il y a le mur israélien et un checkpoint à passer. Pour ne pas perdre son emploi, il n'a pas le choix, il fait les allers-retours, jusqu'au jour où un problème administratif le bloque de son côté du mur. Mustapha apprend dans le même temps que son fils, qui lui vit donc de l'autre côté, a été blessé. Il doit absolument réussir à franchir cette muraille et s'engage donc dans un road movie à bord d'une camionnette clandestine au gré des contrôles, des absurdités administratives, des parcours de vie aussi que l'on va découvrir. C'est un film à voir construit à la fois comme un thriller et qui nous permet aussi de comprendre une toute petite part du problème israélo-palestinien. Donc vraiment, allez-y, ça s'appelle 200 mètres. Plus léger léger. Le discours, je sais que vous receviez Fab Caro hier, ouais. Comédie française, signé Laurent Tirard, réadapté donc du roman de Fab Caro. Benjamin Lavergne est Adrien, coincé à un dîner de famille, ennuyeux, forcément. Il ne pense qu'à une chose, que Sonia réponde à ce dernier SMS, celui dans lequel il l'implorait de mettre fin à la pause dans leur couple. Sauf que ce SMS n'arrive pas, et que le pire, c'est que Ludo, son beau-frère, lui demande de faire un discours lors de son mariage avec sa sœur. L'angoisse. Écoutez Benjamin Lavergne.
Je crois que c'est même le pire cauchemar de tous les Français. Je crois que c'est de prendre la parole en public. Donc lui, déjà qu'il va pas bien parce qu'il attend un texto de son ex. Et en plus, voilà, on lui propose ce qu'il déteste. Il ne sait pas dire non. Donc il dit très vite oui à son beau-frère. Et voilà, il se retrouve dans une spirale de névrose, de fantasme même. Donc le film est assez inventif là-dessus. Il propose de montrer ce que serait le discours idéal, le discours catastrophique. Donc il y a de l'amusement aussi dans la mise en scène, dans ce film un peu à tiroir. Voilà, c'est un film à la fois aussi très nostalgique, mais qui a une narration en tout cas vraiment originale, je trouve. C'est ça qui m'a séduit quand j'ai lu le scénario.
Effectivement, narration originale, film drôle, à l'image des romans et bandes dessinées d'ailleurs de Fab Caro. Il y a un deuxième film adapté de l'un de ses albums qu'on attend pour la rentrée, qui s'appelle Zai 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 Zai. Ça avait cartonné en librairie, c'était vendu à plus de 250 000 exemplaires. En attendant, donc, vous pouvez aller découvrir le discours. Et puis d'un mot, laissez-vous tenter aussi par Vaurien. C'est un premier film assez malin sur l'histoire d'un homme, bien sous tout rapport. En tout cas, c'est ce que l'on pense. Il est joué par Pierre Deladonchamp. Et qui en fait est un meurtrier. Alors on n'est pas dans le thriller sanguinolent, vous ne verrez pas les scènes de meurtre, bien au contraire. Mais ça nous permet de s'interroger sur la figure du vagabond, qui en l'occurrence c'est un homme beau, blanc, et donc considéré comme insoupçonnable. Ça pose pas mal de questions. Et là encore, c'est une belle offre de films ce mercredi. Celui-là s'appelle Vaurien.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Martin Lamotte, un des films, vous, un des récits, vous attendez ?
Ah ben j'ai envie de les voir tous.
Ah, tant mieux.
Vous êtes très cinéphile.
Non, j'aime bien voir des univers différents. Nomadland, ça m'intéresse beaucoup.
200 mètres.
200 mètres aussi. C'est un problème qui est très violent. Donc, mais j'ai envie de voir un tout petit peu. J'ai envie de le distiller, de le voir plusieurs fois.
50 mètres seulement. Le discours alors.
Le discours. Ah oui, absolument le discours.
On va tous les citer et je vais aussi citer L'instant présent, le film dans lequel vous jouez, qui sort également en salle aujourd'hui. Merci beaucoup.
Avec
Mathieu Charrier.
Merci.
Notre deuxième indispensable arrive, c'est Clément Le Saffre qui va tout nous raconter, mais d'abord musique, c'est The Weeknd.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
You were
Save Your Tears, Économiste et Larmes, c'était The Weeknd sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Clément Le Saffre qui va nous faire découvrir la nouvelle série Marvel en ligne sur Disney+, toujours en compagnie de Martin Lamotte.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Compagnie en compagnie de Martin Lamotte et je salue Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Après les mangas hier, vous passez aux super-héros avec une nouvelle série Marvel qui démarre aujourd'hui sur Disney+.
Oui, la série Loki. C'est la troisième série Marvel après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver. Ça fait 3 en moins de 6 mois. Alors Loki, c'est le frère de Thor et le dieu de la malice. C'est un menteur patenté, manipulateur, mégalo qui rêve de dominer la Terre avec ses pouvoirs magiques. Bref, c'est pas vraiment un super-héros. C'est même un ennemi des Avengers, hein, vous savez, le groupe des héros d'Iron Man, etc. Mais Loki, c'est pas un méchant caricatural non plus. Il navigue entre le bien et le mal selon ses intérêts. Il est charmeur, séducteur, c'est un beau parleur capable de faire oublier toutes ses mauvaises actions en seulement quelques mots. Et il a tellement séduit les spectateurs depuis son premier film, c'était Thor en 2011, qu'il est revenu après de film en film jusqu'à avoir donc sa propre série.
Donc série à voir sur Disney+, elle parle de quoi cette série ?
Alors accrochez-vous bien parce que c'est une série centrée sur les voyages dans le temps. Et qui dit voyage dans le temps dit forcément intrigue un peu alambiquée déjà, car dans le dernier film des Avengers qui est sorti il y a 2 ans, ça s'appelait Endgame, eh bien Loki était mort, tué par Thanos, hein, lui qui avait au passage éradiqué la moitié de la population de l'univers, paille.
Une fois que t'es lancé, faut y aller à fond.
Ça fait quand même un petit problème. Comment on fait une série avec un personnage qui est mort ? Eh bien, en fait, il faut avoir vu le film pour comprendre. Pour empêcher cette catastrophe, donc l'éradication de la population, les super-héros sont remontés dans le temps jusqu'en 2012. Là, ils ont croisé par hasard Loki, qui était donc vivant à l'époque. Ouais. Je vous la fais courte, il y a un cafouillage, Loki s'échappe, et en faisant ça, eh bien, il crée une nouvelle ligne temporelle. Ouais. Et ça, ce n'est pas permis par, attention, le TVA, le Tribunal des Variations Anachroniques. C'est une agence qui contrôle le temps pour que chacun reste bien à sa place. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le temps.
Je me suis fait pincer là, c'est
vraiment ça rigole pas, les peines sont lourdes. Donc les agents du TVA capturent Loki, mais au lieu de l'effacer du temps, ça c'est la peine, hein, normalement prononcée, eh bien ils lui proposent un marché.
Nous protégeons la fluidité du temps.
En ramassant le Tesseract, vous avez altéré la réalité.
Je veux que vous nous aidiez à y remédier.
Pourquoi moi ?
Il se trouve que le point de vue de Loki est inimitable.
J'aurais une arme ?
Non.
Voilà, en fait, Loki est chargé de pister une autre version de lui-même qui sème le chaos dans les lignes temporelles. Et ça, c'est le début, donc un peu, comme je disais, un peu alambiqué, de cette série qui mélange donc voyage dans le temps et comédie policière.
Alors là, pour l'instant, ça fusionne, ça bouillonne, c'est comment ?
Alors, c'est un peu complexe quand même à comprendre, il ne faut pas se le cacher.
On s'en doutait un peu, non ?
Le premier épisode est un petit peu difficile, même pour moi, qui ai vu tous les films et toutes les séries de super-héros, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je vous rassure, dès le deuxième épisode, ça devient... En fait, le premier épisode n'est qu'une exposition. Ils vous expliquent tout le jargon, tous les personnages. Mais à partir du deuxième, ça y est, les héros commencent à voyager dans le temps, passé, présent, futur. Ça va de Pompéi jusqu'aux années 2050. Il y a plus d'action aussi. Mais le véritable atout de Loki, c'est pas forcément toute cette action, tout ce truc alambiqué de voyage dans le temps. C'est plutôt le face-à-face entre deux acteurs qui excellent dans le bavardage. Tom Hiddleston, qui incarne Loki, alors qui du coup est malicieux, sarcastique, imbu de lui-même, et un nouveau venu dans ce qu'on appelle le MCU, le Marvel Cinematic Universe, c'est Owen Wilson, qu'on connaît bien, un acteur assez connu. Il joue Mobius, l'agent qui a la charge de garder un œil sur Loki. Leur discussion, parfois très longue, hein, plusieurs 5-10 minutes même parfois, c'est des scènes de dialogue très longues, eh bien ça forme une petite musique qui rythme la série.
Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection.
Des métaphores en pagaille, c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin.
Je suis malin.
Oui, je sais.
Ok.
Ok.
Vous pouvez me faire confiance.
Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible.
Je n'ai qu'à pas recommencer.
Voilà, il y a un petit côté en fait buddy movie, hein, vous savez, ces films où il y a un duo de policiers.
Film de potes.
Exactement, film de potes. Hein, en général, qui sont pas très assortis l'un à l'autre.
Voilà.
Sauf que là, c'est un petit peu plus sombre, hein, comme si l'arme fatale finalement rencontrait Zodiac, Seven ou n'importe quel film policier à la David Fincher. Et cette façon de prendre son temps avec les dialogues et les personnages, ça montre aussi que Marvel finalement fait un peu plus que des films. Ils exploitent bien ce format de série.
Et puis Clément qui dit super-héros dit comics. Est-ce que vous en avez un à nous recommander avant de voir la série ?
Évidemment, Panini Comics a prévu deux titres titre très sympa pour accompagner la sortie de la série, qui sort aussi aujourd'hui en librairie. D'abord, Loki, le dieu tombé sur Terre. C'est une histoire qui se demande ce que ferait Loki s'il avait obtenu en fait tout ce qu'il voulait dans la vie. Il est devenu roi de Jotunheim, c'est un royaume de géants. Sauf que, eh bien, il se rend compte que tout ça l'ennuie profondément. En fait, il préfère faire jouer des mauvais tours, donc il part se balader sur Terre. Ça n'a rien à voir avec la série, mais on retrouve ce même portrait d'un anti-héros tout en nuances. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, Voter Loki, un comics en forme de satire politique qui a d'ailleurs inspiré un des épisodes de la série dans lequel Loki se présente à l'élection présidentielle américaine. Une candidature improbable avec un personnage plus vrai que, enfin, assez fou. C'est un clin d'œil direct à l'élection de Donald Trump. Hein. Toute coïncidence ne serait pas du tout fortuite. La politique, c'est rare dans les comics. Donc, c'est une lecture originale que je vous recommande aussi.
Merci beaucoup, Clément Lossaff. Dis donc, les scénaristes, ils sont pas à l'eau. Hein.
Ah non, là, ils carburent. Ils carburent fort.
Non, mais ceci dit, c'est absolument flamboyant. Le MCU, c'était
le Marvel Cinematic Universe, absolument. Ouais.
Merci beaucoup, Clément Lossaff. Vous êtes fan de ce genre de série ou pas du tout?
Pas trop, mais je redécouvre. Parce qu'il y avait avant les bandes dessinées des années 40 et tout, on regardait
les comics,
ça.
Ouais.
Les comics. Et puis maintenant, ça a bougé énormément. Là, c'est plus rapide et c'est beaucoup plus compliqué, en fait.
Et on va continuer à parler du super-héros, mais un petit peu à votre manière. On va parler de super-résistants, mais pas seulement. Merci Clément Lossaff. Voilà. Dernière partie de Culture Média, Martin Lamotte avec nous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Martin Lamotte, à l'affiche du film de Florian Essig, L'instant présent, qui sort aujourd'hui en salle. Mais vous avez aussi une autre actualité, Martin Lamotte. On vous a vu, faut-il le rappeler, dans Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés 3 et surtout Papy fait de la résistance. J'en parle parce que vous l'avez rejoué récemment et vous allez la reprendre au Théâtre de Paris dans le 9e. À la base, c'était pas un film, mais une pièce de théâtre. Et c'est vous, ce que j'ignorais, qui avait écrit la pièce en 83 avec Clavier.
Oui, absolument. On a écrit tous les deux cette pièce-là et on avait écrit cette pièce en se disant on fera un film après, ouais. Parce qu'on avait plein d'idées folles, un peu comme dans les Marvel. Mmh. Et puis ça s'est passé, on a rencontré Fechner et on a...
L'histoire en deux mots pour les plus jeunes qui n'ont pas vu le film?
Alors, c'est l'histoire d'un... Pendant la guerre de 40 en France, les Allemands avaient envahi et les officiers pouvaient aller chez des gens, ils réquisitionnaient une pièce ou deux, ils habitaient là. Et donc, c'est une famille de Français qui fait un peu de résistance et qui voit arriver un général allemand chez eux. Et alors, c'est des branquignoles de la résistance, ils sont abrutis, ils vont essayer de faire un réseau et tout, et ça va mal tourner, mais ça va surtout être très drôle.
Ça se passe dans la cave, évidemment. L'idée de base, c'est une parodie. Vous parodiez les films... de résistants.
On parodie les films exemplaires de la résistance qu'il y a eu à ce moment-là. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a 4-5 qui étaient grandioses et tout, et c'était trop. Pour nous, on trouvait ça trop, on trouvait ça risible, alors on en a fait un.
La pièce est passée le 1er juin sur France 2, vous avez vu les scores?
À peu près, oui, ça fait...
C'était pas mal, 1 380 000 personnes, oui. C'est pas énorme, mais pour une pièce en direct, c'est énorme.
Ben bien sûr, c'est beau.
C'est devenu un film, vous l'avez dit, grâce à Christian Fechner, le producteur, juste pour le plaisir, oui. C'est qu'on sculpte avec Junio.
Oui. Rassurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant !
Mais que se passe-t-il ? Vraiment, je ne comprends
pas. Pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis ! Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop ! Hop, 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 hop !
Ça vous fait rigoler encore.
Ah oui, oui.
À l'origine, dans la pièce, il n'y avait pas de papy.
Non, il n'y avait pas de papy, c'était juste le titre qui nous plaisait. Et puis, quand on a écrit la première fois le scénario, on voulait que Louis de Funès joue le rôle de papy dans le film. Hein.
Il a dit oui ?
Il a dit oui, il est venu voir la pièce, et malheureusement, il nous a quittés quelques mois avant, donc on a dû couper tout ce qu'on avait fait pour lui, et puis garder une petite place et demander à Michel Galabru de jouer papy, qu'il a fait très bien, mais c'était plus le même personnage déjà.
Si j'ai bien suivi, vous allez faire papy. Vous étiez super résistant, là vous allez devenir
ouais,
papy.
Je vais devenir papy. Vas-y.
Vous avez gagné un petit peu en âge. Vous avez proposé à Christian Clavier l'alternance pour le rôle, il a dit oui, il a dit non, il a dit je sais pas, je te dirai à la rentrée.
Il a dit je sais pas, oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ben, il m'a dit j'ai beaucoup de boulot et c'est vrai, mais il m'a dit je te fais la bande son et il m'a fait des voix off et des tas de trucs. Voilà.
D'accord. Prochain projet après ça, vous savez déjà où le Covid et le confinement a tout changé, tout chamboulé?
Toutes les cartes sont redistribuées, j'espère qu'elles vont tomber chez moi.
Ouais, en espérant. On vous voit moins au cinéma, Martin Lamotte, depuis des années, ça fait longtemps. C'est les metteurs en scène qui vous appellent plus, ou c'est vous qu'on voyait bouler tout le monde?
Non, on ne m'appelle plus. mais c'est pas très grave, ça existe.
Ah bon
dans, oui, ça existe dans cette profession. Et on m'appelle plus, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de télévision et beaucoup de théâtre.
Ouais, non, donc, on voyait dans Nos chers voisins.
Oui, entre
qui autres, passe encore, mais oui. ça ne tourne plus.
Ça fait 2 ans que c'est arrêté.
D'accord, mais ça passe encore.
Oui.
Voilà. En 2003, vous disiez du cinéma français, j'ai retrouvé une ancienne interview de vous dans France Soir qui existait encore. En 2003, vous disiez du cinéma français qu'il était moribond. Est-ce qu'il va mieux, le cinéma français ?
J'ai l'impression qu'il va un peu mieux, mais c'est pas non plus la joie. C'est qu'on produit énormément de films, et des films qui sont dignes d'intérêt 10 ans après, il n'y en a pas beaucoup.
On est d'accord. Merci beaucoup, Martin Lamotte. Je rappelle, l'instant présent, c'est aujourd'hui en salle, film signé Florian Hessy qui est avec nous en début d'heure. Et Papy fait de la résistance, ce sera au Théâtre de Paris à partir de...
du 4 septembre.
Merci d'avoir été avec nous. Culture Média, c'est terminé pour aujourd'hui, évidemment. On se retrouve demain à 9h. Nous serons avec le directeur des séries originales françaises de Netflix. C'est Damien Couvreur qui va nous dire beaucoup de choses sur les prochaines créations. Et puis la chanteuse Hélène Ségara pour son nouvel album qu'elle décrit comme un long métrage sonore. Ça s'appelle Karma. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien. Ça aussi, c'est un bon karma. Je vous dis à demain. Merci encore. Oui. Je ne trouve plus votre nom. Martin Lamotte.
Mais c'est d'un petit Alzheimer. Ça
comment
va.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.